Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Alexandre Niungeko.
Vous êtes bien sûr la radio Inzamba, Gaté Kakawe, c'est l'heure du journal français, dont voici d'abord les principales articulations. Les habitants de la colline de Munanira en commune Muruta, dans la province d'Okayanza, vivent une plus cause de peur. C'est suite aux entraînements paramilitaires des jeunes Imbonerakure qui se font tous les samedis matins. Manque criant de carburant depuis deux semaines dans la province de Ngozi et les chauffeurs se lamentent. Le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international au Burundi, le CAVIB, envoie une correspondance au président de la République du Burundi et c'est pour lui demander la libération du docteur Christophe Sahabo qu'il juge injustement incarcéré. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bonjour, bienvenue à tous.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Pour commencer ce journal, encore sans vie, d'un homme âgé de 60 ans, originaire de la commune de Gatozo, en commune de Muhanga, a été retrouvé suspendu sur un arbre non loin de son domicile dans l'après-midi de ce lundi. Les voisins pensent qu'il se serait suicidé. La femme a dit que son mari vivait avec un handicap mental. L'administration demande aux familles ayant des personnes vivant avec des problèmes mentaux de bien s'en occuper. Les préparatifs des militaires burundais qui participeront à la mission de retour à la paix et à la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo vont bon train. Annonce faite ce mardi par le ministre de la Défense des anciens combattants. C'était lors d'une conférence de presse sur les réalisations du quatrième trimestre clôturant l'exercice budgétaire 2021-2022. Alain Trider Mutabazi a également nié encore une fois la présence des militaires burundais sur le sol congolais. Suivez.
La force de défense nationale du Burundi est préparée pour intervenir dans son cadre. Et on peut dire que les préparatifs sont à un niveau satisfaisant à 90%. Et je pense que bientôt on va terminer les préparatifs et attendre le coup d'envoi. La force de défense nationale du Burundi, c'est une armée moderne et professionnelle. Et toutes ces interventions doivent être dans la légalité pour dire que la force nationale du Burundi n'intervient que dans le domaine de la coopération bilatérale, régionale, africaine ou dans le cadre des Nations Unies. Donc ceux qui disent qu'il y a des militaires burundais sur le sol congolais, peut-être qu'ils ont une autre agenda cachée, mais ce qui est connu par tous, c'est qu'à l'est de la RDC, il y a des groupes terroristes, des Burundais, de l'Etabara et de l'Etabara. Je pense que ce sont des gens qui confondent ces groupes à nos militaires ou bien il en faut pour d'autres intentions.
Entre-temps, la population de la commune Munanira, en commune Muruta, de la province de Kayanza, vit dans une peur panique. Et pour cause des entraînements paramilitaires des jeunes Imbonerakure qui se font tous les samedis à partir de 3h du matin, la population demande à l'administration communale d'arrêter ces entraînements dont elle ignore les mobiles. Le point avec Georges Nimenya.
Les informations recueillies par la radio Inzamba Gatakawe au sein de la population de cette colline révèlent que ces entraînements paramilitaires des jeunes Imbonerakure se font tous les samedis à partir de 3h du matin jusqu'à 7h. Ils sont munis d'armes fabriquées en bois et à la forme de Kalachnikov. Selon les mêmes sources, ces jeunes se prépareraient pour aller combattre en RDC et puis par la suite en Somalie. L'endroit où se déroulent ces entraînements est fortement protégé et personne ne peut y passer. Le chef colonel et le responsable des jeunes Imbonerakure sont à la tête de ces entraînements qui inquiètent la population.
Le chef de file dans ces entraînements est Théogène, le chef de colline, ainsi que le responsable des jeunes Imbonerakure, dénommé Koli, natif du centre Lango. Ce Théogène fait la pluie et le beau temps. Tu ne peux rien dire si tu n'es pas membre de ce parti au pouvoir. Nous, ce que nous demandons, que ce soit à l'État ou alors à l'administrateur de la commune Moluta, c'est vraiment de tempérer et de laisser libre ceux qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD. Celui qui n'est pas de ce parti ne peut demander aucun service sur cette colline. Nous, sur cette colline, nous ne sommes pas du tout libres pour la simple raison que nous ne faisons pas partie de ces jeunes d'Imbonerakure.
Face à toutes ces inquiétudes, la rédaction de la radio Inzambagata Kawe a essayé de joindre l'administrateur de la commune de Moruta pour plus de précisions, mais sans succès.
Merci Georges, le secrétaire provincial du CNDD-FDD à Lutana, Sylvain Zikoruliho, est sous interrogatoire. Il a comparu son lundi 25 juillet au bureau du service national de renseignement. Il est accusé de viol sur mineur au chef-lieu de la commune d'Ogiharo. Des précisions avec Joséphine Jones Munziman.
L'interrogatoire de Sylvain Nzikoruliho survient après que le procureur général Sylvestre Nyandoui et le responsable du CNR au niveau national aient effectué une descente mercredi dernier en commune de Guiaro pour mener leurs propres investigations. La victime du viol et sa mère avaient porté plainte contre ce responsable du CNDD-FDD auprès du parquet de Lutana, mais sans succès. Elles ont par contre été persécutées à tel point qu'elles ont même été arrêtées puis relâchées. Mais toutes les deux ont été poussées à vivre en cachette suite aux intimidations qu'elles subissaient de la part des Imbonerakure sous les ordres de Sylvain Nzikoruliho. Dans le cadre de ces enquêtes, plusieurs personnes ont été interrogées. Les responsables des hôtels à Guiofi où le viol a été commis ont été forcés de fermer leurs établissements sur pression de Sylvain Nzikoruliho pour que le procureur général et le responsable du service secret ne trouvent pas les preuves du crime. Comme la permanence communale du CNDD-FDD était aussi utilisée par Sylvain Nzikoruliho pour commettre le viol, le secrétaire communal du CNDD-FDD en commune Guiaro, Renova Kizimana, a lui aussi comparu ce lundi avec son supérieur Sylvain Nzikoruliho. Selon des informations en provenance de la commune Guiaro, la jeune fille victime du viol aurait été forcée à l'avortement par Sylvain Nzikoruliho. La jeune fille et sa mère ont pu retourner en commune Guiaro mercredi dernier, accompagnées du procureur général et du directeur général des services de renseignement burundais. Les habitants de la province de Lutana demandent que justice soit faite pour les victimes, pour les actes de viol et la persécution qu'elles ont subis.
Justice, c'est également le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, le CAVIB, qui vient d'adresser une correspondance, une lettre ouverte au président de la République du Burundi. Il lui demande la libération du docteur Christophe Sahabo, ancien administrateur directeur général de l'hôpital Kira Hospital. Cette organisation estime que le dossier Christophe Sahabo est émaillé de plusieurs irrégularités du début jusqu'au aujourd'hui. Écoutez, maître Gustave Niyonzima, il est président du collectif CAVIB.
Subsidiairement aux enquêtes exhaustives menées par le CAVIB, ce dernier vient d'adresser une lettre ouverte à son Excellence le Président de la République sur le cas de l'incarcération illégale et arbitraire du Dr Sahabo Christophe, ancien directeur général de l'hôpital Kira. Dans cette lettre ouverte, le CAVIB rappelle des irrégularités procédurales et a émaillé le fameux dossier du Dr Christophe Sahabo, notamment en ce qui concerne les violations des droits de la défense et d'un procès équitable, et depuis son arrestation où il n'y a pas eu de mandat au préalable, où il n'a pas pu être défendu par les avocats de son choix ou être informé qu'il a le droit de garder le silence à l'absence des avocats de son choix et aussi qu'il a le droit d'être informé, qu'il a le droit d'avoir un avocat commis d'office s'il n'a pas les moyens pécuniaires de payer un avocat de son choix. Le CAVIB rappelle dans cette lettre ouverte le dépassement des délais au niveau de la phase de la garde à vie, au niveau de sa détention arbitrée. Il a passé plus de 48 jours en phase de la garde à vie au lieu de 7 jours prévus par l'article 34 du Code de procédure pénale. Également, au niveau de sa détention préventive devant la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Moura ou de la cour d'appel de Moura, il y a eu dépassement des délais. Il devait être informé si la décision prise en délai 48 heures exigée par l'article 57 du Code de procédure pénale, mais 10 jours ont passé sans qu'il au courant de ce qui a été décidé. Aussi, dans cette lettre ouverte, le CAVIB prouve sans embâge qu'il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité à son égard, qu'il n'y a pas même de preuves tangibles par rapport au chef d'accusation, et demande le concours de son excellence le président de la République en tant que magistrat suprême, afin qu'il y ait la bonne administration de la justice dans la procédure inhérente à l'incarcération du docteur Sahabou Christophe.
Maître Gustave Niozima pense que l'incarcération de Christophe Sahabou n'a d'autre visée que la spoliation des biens de l'actionnaire principal de l'hôpital Swiss Medic International en violation de la loi régissant les entreprises para-étatiques privées.
Le CAVIB interpelle le président de la République quant à l'intention de spolier des actions des actionnaires majoritaires dont la société suisse International Limited et d'autres privés, car en date du 19 juillet 2022, le président du conseil d'administration AI qui s'est proclamé en violation flagrante des articles 359 à 365 du code des sociétés privées à participation publique a fait un appel aux actionnaires afin qu'ils prouvent via des documents comptables que leur part sociale au niveau de Kira Hospital. Ceci n'est pas de la prérogative du président du conseil d'administration. Dans les archives, il y a les parts de chacun, mais également il y a un rapport définitif du 31 mars 2022 du commissaire aux apports. Ce rapport définitif est venu après l'incarcération du docteur Sahabou Christophe. Le dit rapport prouve sans rechigner que Swiss International Limited est actionnaire majoritaire et donne la répartition des parts sociales de chacun. Et donc on voit qu'avec l'appel du président du conseil d'administration qui n'a pas été prorogatif, on voit qu'il y a l'intention de spolier les actionnaires majoritaires, étant donné même que ce sont des actionnaires minoritaires qui est à la commande, qui s'est proclamé président du conseil d'administration et directeur général AI, en violation flagrante même des articles 431 et 432 du Code des sociétés, et lesquels articles prouvent que cette spoliation serait inopposable à tout tiers, mais également à tout actionnaire. C'est au niveau de cette intention, de ces velléités inhérentes à la spoliation des actions des actionnaires majoritaires que le CAVIB interpère le président de la République beaucoup plus afin que l'irréparable ne puisse pas être commis. Si l'on s'en tient à la façon dont il a été contraint de signer sa lettre de démission, on voit qu'il y a l'envoyé sous roche et cette intention de spolier les actions de la majorité. Ceci viole même ostentatoirement les articles 112 et suivant du code de procédure pénale. Aussi, cette soi-disant lettre de démission n'a aucune valeur juridique et régorge une nullité de ce qu'on appelle ab initio.
Inzamba.
Le carburant, un produit rare dans la province de Ngozi, les chauffeurs disent qu'ils peuvent passer 2 jours d'attente dans les stations-service sans en avoir aucune goutte. Cette pénurie de carburant s'observe dans cette ville depuis plus de 2 semaines. Les chauffeurs ont peur, ils disent qu'ils ne peuvent plus nourrir les leurs puisqu'ils ne travaillent plus normalement. Le point avec Pierre Gahungu.
Les informations que nous détenons de la part des chauffeurs œuvrant dans la ville de Ngozi indique qu'ils peuvent passer 2 jours sur les stations sans avoir du carburant. Ils craignent que la vie ne devienne très chère et demandent au gouvernement d'apporter des solutions à ce problème.
Ces derniers temps, j'ai passé 2 jours faisant la queue, mais je n'ai pas été servi. J'ai quitté la station d'Okudjamivo pour la station Ingen, mais là non plus, je n'ai rien eu, alors que j'y ai passé toute la journée. Même aujourd'hui, je suis là depuis 4 heures du matin et voilà qu'il est 15 heures, toujours en attendant que j'obtienne du carburant. La vie va devenir trop chère. Il faut que l'État apporte des solutions.
Cette pénurie fait que certains chauffeurs augmentent le prix du ticket, ce qui les confronte aux lamentations des clients. Ils craignent que leur famille ne crève de faim car ils ne leur apportent rien.
Nous sommes très souvent en conflit avec les clients. Ils disent que nous leur demandons de payer très cher à leur ticket. Ils ignorent combien nous souffrons pour avoir du carburant. Je viens de passer 2 jours aussi. Si je leur demande 1000 francs de plus, ils vont crier. Je viens de passer 2 jours sans travailler. Ma femme et mes enfants ne vont pas au marché pour s'approvisionner parce que je n'apporte rien à la maison. Mon patron grogne car je ne lui donne plus du versement. C'est vraiment très dur.
Vous saurez que la pénurie de carburant est également signalée en mairie de Bujumbura. Aussi, le ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique a suspendu le 5 juillet 2022 la dérogation spéciale de payer toutes les taxes liées à l'importation de carburant avec 3 mois de différé. Cette dérogation avait été accordée à la compagnie Interpétrole Burundi depuis 2015.
Et qu'est-ce qui devrait être fait pour mettre fin à la pénurie récurrente du carburant au Burundi? Certains Burundais estiment que l'une des solutions est de casser le monopole d'importation dans ce secteur. D'autres proposent la hausse des prix des produits pétroliers. On écoute ceux qui se sont entretenus avec la radio Inzamba.
Le gouvernement doit avoir un stock de carburant qui peut tout simplement aider le pays s'il y a encore de la rupture du carburant. D'autres solutions est que le gouvernement puisse donner l'autorisation aux importateurs. Celui qui veut importer le carburant, celui qui a la capacité d'importer le carburant, doit avoir l'autorisation d'importer. L'autre solution, faire tous les moyens possibles afin qu'il puisse réduire le prix.
Il faut qu'il y ait une bonne politique commerciale. S'il faut lancer le prix, il faut encore augmenter le prix. Auparavant, le gouvernement avait dit qu'il vient d'augmenter le prix du carburant pour que le carburant soit disponible. Et finalement, le carburant n'est pas disponible. Aujourd'hui, c'est disponible, demain, c'est pas disponible. Et pour nous, comme solution, c'est que le gouvernement prenne une décision efficace. Ajouter 200 ou 300 francs pour que ce carburant soit disponible. Parce que si le carburant est cher et qu'il est disponible, ça peut rendre la vie plus ou moins facile. Mais si ça manque comme ça, vraiment, on ne va pas chercher sur vous. Mettre une rubrique dans le budget national, la rubrique du carburant. La rubrique propre au carburant. Et si cela ne passe pas, il faut chercher une dette en devise pour l'importation du carburant. Sinon, le problème reste. Et on sait que le carburant est le moteur de tout. Aujourd'hui, la vie est très très chère au Burundi. Et cela est lié en grande partie à ce manque de carburant.
C'est que l'État, la population, c'est toutes les personnes capables d'importer ces produits et de première nécessité puissent accéder au marché, puissent aller compter ou puissent vendre au prix qu'ils veulent parce que la libéralisation des produits soit abordable et aussi accessible par tous.
Et voilà, c'est par là que s'achève ce journal. Merci à vous toutes, tous, chers auditrices, auditeurs de la radio Inzamba Gate Kakawe pour votre fidélité, de nous avoir prêté oreille attentive. Au revoir et à la prochaine.